La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Nous allons parler pour la troisième fois de la météo. Depuis deux semaines, j'ai avec moi Olivier Mock, qui est ancien directeur général adjoint de Météo France, polytechnicien, ingénieur général des ponts, eaux et forêts, et qui a aussi travaillé dans le cadre du programme climatologique de l'Organisation météorologique mondiale aux Nations Unies. Nous avons parlé d'abord de l'évolution de la manière de faire des prévisions météo depuis un siècle ou même plus, et puis nous avons parlé ensuite de la manière dont les choses se passent maintenant, la modélisation, le recueil de données. Sur le plan international, Olivier Mock a beaucoup insisté la dernière fois sur le fait que c'est mondial maintenant et que si on a un événement qui se passe quelque part dans le monde, ça rejaillit partout, même à l'autre côté de la Terre. Donc en fait, ce qui serait intéressant, c'est d'étudier en détail à qui ça sert maintenant ces prévisions météo ? Parce que pour tout un chacun, on a envie de regarder la météo pour savoir quel temps il va faire demain ou après-demain ou pendant les vacances la semaine suivante. Mais en fait, il y a des enjeux beaucoup plus importants, des enjeux politiques, des enjeux internationaux. Et je crois que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus en détail sur cette question. À qui ça sert toutes ces prévisions météo ?
Merci Sylvie. Oui, je crois que tout ce travail est utile. Je crois que c'est ça qui est important. Les prévisions météo, donc je parle uniquement des prévisions météo, mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a aussi les études climatiques, la connaissance des climats passés, etc., servent à protéger et à éclairer les décisions. Alors la protection, on le connaît, c'est par exemple le système de vigilance à Météo France, hein, qui permet de dire demain les conditions seront rouges, donc ça veut dire que vraiment vous devez faire très attention, c'est une vigilance absolue, il y aura des catastrophes, il y aura d'ailleurs des morts, etc. Alors que si on dit c'est orange, ça veut dire faites attention. Bon, donc ça c'est important, c'est pour le grand public. Tu as dit le grand public s'intéresse aux prévisions, il s'intéresse aussi aux prévisions classiques. Est-ce que je pourrais faire un barbecue demain dans mon jardin ou samedi prochain, etc. Donc ça, c'est la partie grand public. Mais la météo, en fait, elle a été créée pour le monde des professionnels. Elle a été créée, je l'ai dit, pour la marine. Hein, j'ai parlé de la marine qui avait été détruite pendant la campagne de Crimée. Donc les marins, que ce soit les militaires ou les civils, ont besoin de ça. Le monde aéronautique, évidemment, est sensible, est extrêmement sensible. Parce que non seulement il y a la question du danger, un avion est sensible au temps et au climat, il va éviter les nuages dangereux. Mais on va beaucoup plus loin que ça. On sait que s'il passe de tel endroit à tel endroit, il ira plus vite ou il dépensera moins de kérosène, etc. Et donc tout ça est important. Le monde agricole est extrêmement demandeur aussi. Hein. Est-ce que c'est la peine d'arroser ? Est-ce qu'il n'y aura pas demain une pluie qui va faire ça ? Ou bien au contraire, si je mets des intrants, est-ce que ça va être lessivé, etc. Donc, alors c'est vrai aussi pour la grande distribution. Hein. On sait exactement quelle est la proportion de vente de bière qui va arriver demain ou après-demain en fonction du temps qu'il fait.
Parce qu'on attend de la grosse chaleur, donc tous les gens se précipitent pour acheter de la bière.
Oui, et c'est différencié. Ce n'est pas la même proportion en Bretagne et en Alsace, par exemple. Hein. Ça veut dire aussi qu'on peut optimiser l'emplacement des locaux de stockage de la bière. Donc tout ça est important. Les professionnels en ont besoin. Une entreprise comme EDF a absolument besoin de données, ne serait-ce que pour pouvoir accorder l'offre d'énergie à la demande, puisqu'on ne peut pas stocker l'électricité. Alors que l'offre d'électricité dépend du temps qu'il fait et que la demande dépend du temps qu'il fait. Le moindre nuage sombre qui passe sur Paris fait que tout le monde va allumer son électricité au même moment, etc. Et tout ça est annoncé à EDF qui, en fonction de ça, organise son réseau. C'est vrai pour la SNCF. Je me rappelle que la SNCF voulait savoir quand il y aura des accumulations de feuilles sur tel bout du réseau à l'automne, etc. Les problèmes d'hydrologie aussi. Hein. On a besoin de piloter les réseaux d'hydrologie. On a besoin de gérer la ressource en eau. On a besoin de prévoir les risques, etc. Tout ça est tellement vrai que Météo France a une filiale qui s'appelle Prédict, qui se consacre aux risques. et à fournir des informations sur le risque. Et je crois qu'ils ont quelque chose comme 5000 entreprises qui sont clientes. On a plusieurs dizaines de milliers de collectivités. Et donc, tout ça est rentable. Collectivement, on estime par exemple actuellement que Météo France permet 3 milliards d'euros de bénéfices socio-économiques par an. Donc, je veux dire, tout ça n'est pas négligeable. Tout ça n'est pas négligeable. Je m'aperçois que j'ai pas parlé de l'intelligence artificielle et je pense que ça peut être intéressant parce que c'est une voie nouvelle qui s'offre en matière de prévision météorologique. Je reviens un tout petit peu en arrière. J'ai parlé un moment de la méthode des analogues qui consistait à dire la situation météorologique aujourd'hui ressemble à celle d'il y a 4 ans et demi, etc.
Donc, qu'est-ce qui va se passer le lendemain compte tenu
et ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Oui. Ça n'a jamais marché parce qu'il y a des millions de paramètres qui entrent en jeu. Hein. Et ben précisément. Puisqu'il y a des millions de paramètres, on peut espérer maintenant, avec des méthodes d'intelligence artificielle, simplement d'ingérer, d'en fournir des données dans un système d'intelligence artificielle et de voir ce que ça donne. Alors, la grande force d'un tel système, c'est que ça ne coûte pas trop cher, c'est que c'est rapide. Ça a un inconvénient majeur, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça marche, mais les résultats sont très étonnants parce qu'ils sont d'un ordre de grandeur de qualité qui avoisine celui des méthodes de prévision numérique qui sont désormais classiques.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut valider, ça c'est un point important de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir valider a posteriori qu'elle ne fait pas de bêtises.
Et surtout en comparant avec le temps qu'il a fait, effectivement.
C'est vrai que la validation, elle est évidente.
La grande force de la météo, c'est qu'on a le résultat. Ouais, alors, vrai. Cela dit, une des difficultés, c'est comment est-ce qu'on améliore le système, hein, puisqu'on ne sait pas très bien comment ça marche. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près du même ordre de qualité actuellement. Alors, ça dépend pour les cyclones. Les méthodes de physique sont meilleures ou les méthodes d'IA, les unes sont meilleures pour la trajectoire et l'autre pour l'intensité, etc. Mais enfin, c'est du même ordre de grandeur. Et d'ailleurs, les services météorologiques et les chercheurs et les universités qui travaillaient sur ces modèles sont désormais rejoints par des quantités d'autres chercheurs, par exemple ceux de Google, qui sont tout à fait en pointe sur ces nouvelles méthodes.
Et ça fait quand même intervenir beaucoup de monde, ça, des ingénieurs, des techniciens, par exemple la Météo France.
Météo France, actuellement, c'est 2600 personnes. 2600 personnes qui sont à la fois dans l'Hexagone et pas Outre-mer, etc. Donc là-dedans, il y a pour les trois branches dont je parlais tout à l'heure, hein, il y a la partie recherche, hein, il y a des gros centres de recherche, certains sont spécialisés, il y a des centres de recherche sur la physique de l'atmosphère, il y en a d'autres sur la neige, par exemple, les avalanches, la prévision des avalanches, ils vont être capables d'étudier les grains de neige un par un, de comprendre leurs différentes particularités, de comprendre lesquelles sont capables de glisser les unes sur les autres, etc. Mais on a aussi un centre sur la prévision marine. Donc ça, tout ça, ça existe. Donc ça, c'est la partie recherche, vraiment. Ensuite, il y a toute la partie opérationnelle. J'ai oublié quelque chose d'important que je tiens à dire, hein, c'est que à la suite des prévisions numériques dont je parlais, du temps, hein, il y a une partie d'expertise. D'expertise. C'est-à-dire qu'on sait que l'expert rajoute encore par ses connaissances une part d'amélioration des prévisions.
Comment ça ?
Je veux dire,
parce que tu as les résultats de la modélisation et donc il intervient sur les résultats de la modélisation.
Il intervient, oui, il a des résultats de la modélisation, mais il a plusieurs modèles. Il a au moins les deux modèles français, il a aussi le modèle commun européen, il a ceux des autres pays. Donc à partir de là, on observe qu'on améliore la prévision locale en ayant des expertises humaines. Je crois que c'est très important. Voilà. Quand on fait des prévisions météo, finalement, on modélise l'atmosphère. Et on modélise, évidemment, les rapports avec l'océan et avec l'humidité des sols, etc. Mais la température de l'océan superficiel, par exemple, à l'échelle de quelques jours, elle ne bouge pas tellement. Si on veut étudier le temps à plus longue échéance, c'est-à-dire le climat, à ce moment-là, on est obligé de modéliser aussi tous les autres systèmes qui interagissent avec l'atmosphère. On est obligé de modéliser les océans, la cryosphère, la teneur en eau des sols, la rugosité des forêts qui changent selon, etc. Et donc, la modélisation climatique est plus compliquée encore. Hein. Donc, c'est quelque chose. Il faut coupler tout ça pour pouvoir faire de la modélisation climatique.
Et alors, en fait, les tornades et les cyclones, c'est quoi exactement ?
Cyclones, moi il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est qu'on les connaît depuis très peu de temps. Chaque jour, à la télévision, on voit la photo satellite. Donc on voit que cette bande nuageuse qui va à la fois depuis le Portugal jusqu'à la Norvège, elle s'étend. On voit qu'à l'ouest de cette bande, il y a des petits nuages blancs et puis que ce n'est pas du tout ce qui se passe à l'est, etc. Mais il a fallu très longtemps pour se rendre compte que le temps était organisé comme ça.
Et donc, c'est vrai que c'est très pédagogique maintenant, ce qui est montré à la télé en général.
Oui, absolument. Et donc, le premier satellite météo, c'est 1960. Tout ça est extrêmement récent. Alors, si on parle des cyclones, c'est aussi une découverte finalement relativement récente. On savait que les navires ne revenaient pas avant, quand ils étaient pris dans... Ils ne revenaient pas, précisément. Et quand ils revenaient, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Et maintenant, on sait que le vent tourne à une échelle de quelques centaines ou milliers de kilomètres, etc. On a même des avions spécialisés qui vont faire des mesures dans l'intérieur du cyclone, etc. C'est pas évident, d'accord. Et donc, on connaît ces structures particulières. Alors, en fait, pour pouvoir décrire l'atmosphère, il faut être capable de comprendre que les échelles sont très différentes. Hein. Les échelles des perturbations classiques qui nous donnent de la pluie, par exemple, en Europe, sont de quelques milliers de kilomètres. L'échelle d'un cyclone, c'est plus petit. L'échelle d'une tornade, c'est beaucoup plus petit encore, etc. Et donc, tout ça, on commence à le comprendre. Et on fait des modèles, comme je l'ai dit, on fait des modèles à maille fine, de manière à rendre de plus en plus compte de phénomènes extrêmement fins.
Mmh. Mais je crois que ce qu'on peut retenir, ou ce que les gens, les auditeurs peuvent retenir, c'est la complexité. Énorme complexité de tout. C'est d'abord, dès le départ, la complexité, parce que tout sur Terre dépend de tout sur Terre, en fait, pour la météo. Et la complexité de recueil des données, la complexité de l'organisation, la complexité de la modélisation. Et donc, on peut peut-être être bien heureux d'exister sur Terre à une époque où on est capable de faire de telles prévisions, parce que ça fait pas tellement longtemps, comme tu l'as dit plusieurs fois.
Ben, je regrette si j'ai donné l'impression que tout ça était compliqué. Le système est complexe. C'est d'ailleurs un météorologiste qui a inventé la théorie du chaos, qui a redécouvert la théorie du chaos avec cette fameuse phrase sur le battement d'aile d'un papillon.
Oui, etc. Lorentz.
C'est Lorentz, oui. Bon, alors, qui avait été précédé par Poincaré, etc. Oui. Donc le système est complexe, mais il n'est pas mystérieux.
Merci beaucoup, Olivier. Quand je disais que c'était très complexe, je ne voulais pas dire que tu l'avais dit toi-même d'une manière compliquée. Pas du tout. C'était très intéressant, très compréhensible. Mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte que le système, en lui-même, est complexe. Tu ne diras pas le contraire.
Non, il est complexe et il n'est pas mystérieux.
Eh bien, je crois que c'est une bonne phrase de conclusion. Merci beaucoup, Olivier, pour ces trois émissions. Et à bientôt et bonne continuation.
D'accord, merci.